Radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h. Ici, soutien la musique locale.
J'ai besoin de toi, de ton cœur, de tes bras. Besoin de rien.
Pour Chloé Valette, la musique est une histoire de famille. Car c'est avec son papa qu'elle a appris la musique.
En plus, ça, c'est bien mieux.
De Boulogne-sur-Mer, Chloé est une artiste sensible. La musique et l'écriture lui permettent de lâcher prise. Chloé Valette, Rentrée tard, un coup de cœur ici Nord. Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Béarn Bigorre.
Ici Béarn Bigorre.
Ici Béarn Bigorre.
Adichas.
Luc.
Les mots d'oc.
Le smout d'oc.
Kaikaouzout le mot cluc. Ça veut dire lunettes. Ken erre mainat. Kem disem toustem den liba la miège cluc. Quand j'étais petit, on me disait toujours d'enlever mes lunettes avant de faire le sport. Et un jour, Udi n'est pas tirat la mièche cluc. Je les ai pas enlevés. Et Balou qui aimait se yaribat en cap. Et ma cluc qui s'est sous une copate. Il y a eu un ballon qui est arrivé dans ma tête et elles se sont cassées.
Elles sont sympas tes lunettes les AHTO. Elles sont sympas tes lunettes les AHTO. C'est pour la vue, c'est pour la vue, c'est pour le jour. C'est pour la vue, c'est pour la vue, c'est pour le jour.
Les mots d'oc.
Le smuts d'oc d'applusés élèves de l'école et du collège de la calendrette de Pau.
Avec les élèves de l'école et du collège de la calendrette de Pau.
À retrouver en podcast sur l'appli ICI.
Et qui aime taper sur ICI.fr.
ICI, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts.
Un circuit court à Vals-les-Bains aujourd'hui avec Geoffrey Guillermin, créateur de bijoux uniques et magnifiques, vraiment. Geoffrey a lancé en Ardèche sa marque Gautreau en 2018.
J'étais cuisinier, j'ai passé toute ma vingtaine à travailler dans des cuisines, à monter dans les échelons et à voyager, à travailler à l'étranger. Je me suis installé en Écosse, une autre fois en Allemagne, je suis revenu en France. Et je savais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose avec les mains, quelque chose à faire. Puis un jour, j'ai commencé à acheter des outils pour sculpter le bois. J'ai vu que j'avais une certaine facilité, que ça me parlait, quoi, et que j'arrivais à faire des choses qui me plaisaient. Et petit à petit, j'ai pris plus de temps à côté de mon travail pour maîtriser un peu cette partie-là. Et puis quand j'ai découvert, grâce à la résine, on pouvait créer un petit monde à l'intérieur, j'ai commencé à sérieusement penser à créer une marque de bijoux et je me suis lancé comme ça.
Et alors ce bois dont parle Geoffrey est vraiment au cœur de chaque création, ce n'est pas un simple décor. Chaque fibre est une empreinte, chaque vénure un relief. Et avec ces bois choisis pour leur caractère, leur histoire et leur singularité, Geoffrey crée différentes collections de pendentifs et de boucles d'oreilles.
Donc il y a une collection qui est faite avec ces deux matières exclusivement, donc on n'en voit pas trop. Mais c'est une technique qui est super intéressante parce que ça permet de faire des mélanges de couleurs. Moi, j'utilise pas mal d'essences de bois exotiques, des bois rares, mais aussi des bois locaux comme le buis, l'olivier, le cadre aussi dans le futur. Ça permet d'utiliser pas mal d'essences. Ensuite, on a la possibilité de colorer la résine et garder cette transparence. Moi, c'est ce que j'aime bien. Je veux pouvoir voir le bois à l'intérieur. En lui rajoutant de la couleur à la résine, on peut du coup donner un thème. Et ensuite, une fois qu'on a ces deux matières assemblées, c'est sans limite d'une certaine manière, il y a une collection qui est basée sur cette technique-là. La collection entre ciel et terre, donc il y a plein de sous-collections dans celle-là. Donc la nuit d'Islande, le rêve de Dolly, Zahir. C'est la collection bois, résine et opale de laboratoire. Une alternative à la pierre d'opale qui est super intéressante pour ce que je fais. C'est ça qui va donner cet effet d'un peu d'aurore boréale dans les bijoux ou alors le côté nacré. On a l'impression que le bijou bouge, on a l'impression que les aurores bougent à l'intérieur du bijou à cause de la lumière qui réfléchit à l'intérieur. Et j'adore ça, ça fait voyager d'une certaine manière. Et ensuite, on a la collection bois éternel qui est faite exclusivement avec des bois stabilisés. On ne voit pas trop en bijouterie, mais qui est utilisée notamment dans la coutellerie d'art. Ça consiste à imprégner le bois d'une teinte et d'une résine ultra liquide. Et le stabiliser, ça veut dire que ça va rester bloqué à l'intérieur et solidifier le bois. Donc ça le rend imputrescible et ça lui donne des couleurs assez incroyables, des mélanges de couleurs assez folles. On n'a pas l'impression que c'est du bois quand on les regarde, ces bijoux. On croit souvent que c'est des pierres, justement. Sauf que c'est beaucoup plus léger. Utiliser des simples morceaux de bois qui ont a priori pas grand-chose qu'on pourrait jeter par-dessus l'épaule, et puis en fait en faire quelque chose où on y voit un monde et puis ça inspire à l'imaginaire, ça fait rêver. Je m'en rends compte avec pas mal de clients lorsqu'ils voient les pièces devant eux, ce que ça leur évoque. Par exemple, dans les nuits d'Islande, il y a des gens qui m'ont écrit récemment en me disant « Oui, on a fait 7 voyages en Islande. » Ça tombe à pic de tomber sur des bijoux comme ça qui nous rappellent ce voyage. Les mille et une nuits qui me rappellent un voyage dans le désert du Maroc. Et là, en fait, c'est un bijou où on voit comme des dunes avec un ciel de nuit à l'intérieur. Puis pour d'autres, ça peut aller jusqu'à faire imaginer des mondes sous-marins ou d'autres choses. C'est un peu à chacun son interprétation, j'ai envie de dire.
Alors forcément, c'est très visuel, donc je vous invite vraiment à aller faire un tour directement sur le site de Geoffrey Guillermin. Le nom de sa marque, c'est Gautreau. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos qu'il vous faut sur ici.fr, rubrique circuit court.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Garlozère.
Bonjour, je m'appelle Jérémy Ferrier, j'ai 40 ans, je vis à Port-Camargue et je suis soigneur animalier à l'Institut Sicorium du Rôle du Roi depuis 15 ans.
Comment on se dit, petit, je veux faire ça comme métier? Vous vous rappelez du moment qui a été le déclic?
Ouais, je pense que c'est une vocation et je me rappelle très bien du moment. À l'époque, j'étais au CP et j'ai reçu un papier du Marineland où j'ai vu tous les mammifères marins et je sais qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus grand.
Est-ce que c'était compliqué à atteindre votre rêve? Les profs vous ont soutenu dans le projet?
On va dire qu'il y a maintenant plus de 20 ans que je fais ce métier. Du coup, à l'époque, le métier était moins connu que maintenant. Et quand j'ai demandé pour m'orienter, on m'a dit, tu veux être éleveur, c'est ça? De chiens, de chats? J'ai dit non, je veux travailler en parc zoologique ou en aquarium. Et du coup, ils m'ont dit, il faut être vétérinaire pour ça. Ce qui était totalement faux. Du coup, au début, oui, j'ai dû galérer, m'orienter vers un schéma plus classique. Et enfin, j'ai pu faire un stage au Sicorium où j'ai rencontré les soigneurs et eux m'ont dit quelle formation fallait faire pour devenir soigneur.
Vous dites quoi le matin en vous réveillant?
Le matin, quand on arrive, on se dit qu'on a de la chance d'être là déjà, de travailler avec des animaux sauvages. C'est quand même une chance. Surtout, la première chose que je me dis, c'est est-ce que tout le monde va bien?
C'est quoi le meilleur souvenir que vous avez eu avec les animaux où on se trouve là au Sicorium? Il y a des otaries, il y a des phoques. Vous avez forcément un souvenir inattendu avec eux?
Oui, il y a un souvenir plutôt marquant qui c'était avec mes otaries. Il y avait le mâle dominant et deux femelles. Il y a une femelle qui commençait à être un peu agacée. Du coup, elle n'écoutait plus trop et j'ai eu le mâle dominant qui s'est mis entre elle et moi pour pouvoir recadrer la femelle et la session s'est très bien terminée.
C'est quoi le message que vous avez envie de faire passer à la radio?
Le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'il faut respecter la vie animale, végétale, que les aquariums et les parcs zoologiques servent à sensibiliser les gens à cette vie-là et à pouvoir les voir en vrai. Je pense que c'est notre rôle d'éducation.
C'est quoi qui vous impressionne le plus chez ces animaux?
C'est déjà leur adaptation à l'eau. Ils ont des capacités exceptionnelles de nage. La proximité qu'on peut avoir avec eux, quand on les connaît bien et qu'on passe beaucoup de temps avec eux, la confiance qu'ils peuvent nous donner.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Gone. return. I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come?
You'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Did you write?
Come back.
Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Alsace.
Pluie, neige, canicule, brouillard. La météo décide si on va râler ou si on va râler autrement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans le fond, qui décide des prévisions météo? Qui observe? Qui calcule? Qui c'est qui tranche à la fin? Et surtout, pourquoi ils disent qu'il va y avoir du soleil alors qu'on se prend une rincée? Eh bien, réponds tout de suite dans les coulisses de Météo France Alsace que je teste pour vous aujourd'hui. Je suis à Ilkirch-Grafenstaden. Ici, on estime, on calcule le temps qu'il fera demain. Et à côté de moi, voici Simon. Simon, c'est le technicien météo. C'est lui qui surveille des capteurs, des antennes, des machines qui parlent. Bref, tout le langage, c'est des chiffres. Entre le vent, la pression, l'humidité, tout est mesuré en continu avec des stations météo basées un peu partout en Alsace, à des endroits stratégiques, en altitude, dans les vallées, en plaine ou encore en ville, au nord, au sud, bref, un peu partout. Et à cela, on peut ajouter aussi d'autres outils comme les radars, les satellites. Et chaque jour, c'est des millions d'observations qui arrivent dans les ordinateurs de Météo France Alsace. Et avec des équations très, très, très complexes. Et cette complexité est en lien avec notre prochaine découverte. Direction le bureau des modèles météo. Ça, c'est avec Théo. Théo, il est météorologiste et il m'explique eh bien, qu'on ne prédit pas le futur. Mais en revanche, on calcule des scénarios et leurs probabilités. Certains modèles, par exemple, simulent l'atmosphère avec comme résultat, écoutez bien, 350 prévisions possibles chaque jour. Ah bah oui, hein, la machine, elle calcule tout ce qui est possible. Hein, et c'est l'humain, enfin, qui va trancher. Parce que oui, la météo, en bout de ligne, bah, c'est pas juste une machine. Hein, c'est aussi un cerveau. Il y a un cerveau qui tranche. Et en parlant de cerveau, en voici un autre bien rempli. C'est celui de Cédric. Il est climatologue. Et Cédric, lui, va nous emmener littéralement dans un autre monde. Parce qu'avec ses analyses à Cédric, eh bien, on ne regarde pas demain. Non, on va regarder 100 ans en arrière. Car Météo France, eh bien, conserve en quelque sorte la mémoire du climat depuis plus de 150 ans. Parce que le passé, eh bien, il nous permet quoi ? De comprendre l'avenir. Surtout avec les notions du dérèglement climatique qui nécessite une véritable expertise. Alors, après ce dévoilage d'outils, de calculs, d'équations et d'expertises en tout genre, comment se fait-il qu'en 2026, on puisse encore se tromper dans les prévisions ? Eh bien, j'ai posé la question et la réponse de mes spécialistes est claire. Prévoir la météo, c'est comme essayer de prédire la forme exacte des vagues dans une soupe qu'on remue en permanence, sauf que la casserole fait la taille de la planète et que la cuillère tourne toute seule. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui joue avec le feu. On continue. Bref, vous l'avez compris, hein, impossible d'être parfait, seulement de se rapprocher de probabilités, mais avant tout, le rôle de Météo France Alsace, c'est d'anticiper au maximum les risques.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici, Berry.
Ah, faudra attendre la Saint-Paul pour savoir qui sera le cognon.
En Berrichon, dans le texte.
Cognon, à rapprocher de quignon, désigne un morceau de pain. Dans le temps, à la messe, on partageait un pain béni qui était offert à tour de rôle par une famille de la paroisse. Celle qui venait d'offrir le pain allait emporter un morceau, le cognon, à celle dont ce serait le tour le dimanche suivant. À Mentoux-Salon et dans les villages voisins, les vignerons n'ont pas choisi Saint-Vincent comme patron, mais Saint-Paul, célébré le 25 janvier. Eh oui, l'hiver, les gens de la terre ont un peu moins de travail, les jours sont courts et on peut faire la fête. À Mentoux, le cognon, c'est celui qui succède au bâtonnier. Dans les années 2000, la fête de Saint-Paul a failli disparaître. Et il a fallu toute la ténacité de Paul Gilbert, qui avait fondé la confrérie en 1950, pour lui redonner de la vigueur. Traditionnellement, Paul Gilbert entonnait la chanson de Mentoux à la fin du repas. En 2007, il nous a exprimé sa joie de voir revivre la Saint-Paul, a entonné la chanson, mais il l'a jamais terminée, vu qu'il est passé de vie à trépas en chantant le refrain. Voici les paroles de cette chanson, qui se chante sur l'air de la Charibiaude, dont les paroles sont de Jean-Baptiste Magnon, et qu'on chante encore à la Saint-Paul.
En Berrichon dans le texte.
Dans notre pays, sans fait de manière, on passe notre vie ben honnêtement. Oh, y a pas besoin de faire une prière pour voir s'amener le pichet de vin blanc. Que ça soit chez Pierre, ou ben chez Paul, ou Bourdin ou ben d'en bas, chez le Turé ou chez le maître d'école, en vrais amis, trinquons les gars. C'est quand même tous une autre bonne terre, chant heureux tout en travaillant. J'en ai des filles, qu'à son genre, t'es fier. Du beurre, du blé, des gobaillants, et poum des cravères et du bon vin blanc. Si vous passez par Mentoux, venez donc me voir, je vous la chanterai.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici, Pays de Savoie.
La place du village, c'est notre rendez-vous quotidien avec les frères Jean-Noël et Philippe de Paris à la rencontre des Savoyards et Hauts Savoyards. Et aujourd'hui, c'est Philippe qui est avec nous. Philippe, vous nous racontez une très étonnante visite sous terre à Ugine.
Ah oui, on est à Ugine, en Savoie, et c'est une rencontre absolument étonnante. Et ce jour-là, on est accompagné par Rudy Lauberton, qui nous fait pénétrer, Laurent, carrément sous la montagne. En fait, nous sommes dans des tunnels de la guerre. Il nous conduit dans des abris anti-aériens de la Seconde Guerre mondiale. Des abris construits juste avant la guerre. Et comme il nous dit, comme on avait des usines sidérurgiques juste à côté, les avions pouvaient les bombarder. Voilà pourquoi il y a des tunnels. Et là, il nous conduit dans un tube qui lui appartient. 90 mètres de long, 2,50 mètres de diamètre. Et il nous dit là, on est juste au-dessous du centre-ville d'Ugine. Juste au-dessus de nous, on a même le musée du Crécherel. et c'est là que Rudy nous explique qu'il a un jour décidé d'occuper ces tunnels. Il avait pourtant déjà entendu que ces tunnels avaient déjà servi de cave à affinage pour les bons fromages de chez nous.
Bon, le suspense a assez duré, Philippe. Qu'est-ce qu'il y fait exactement ?
Eh oui, qu'est-ce qu'il y fait ? Et c'est là qu'il nous fait découvrir une étonnante ferme, l'Aubricole. Tenez-vous bien, l'Aubricole.
Ah oui.
Et oui, Rudy élève des vers. Il y cultive aussi des endives et des champignons. Et là, il nous raconte comment il a découvert la lombriculture. C'est l'élevage des vers de terre, hein, pour mettre dans les lombricomposteurs. Vous avez peut-être ça chez vous.
À la différence de vous, vous les descendez, les vers.
Vous les descendez. Et il s'agit donc de ces déchets organiques, le compost, vous savez tout ce que c'est. Oui. Et donc, il va récupérer le terreau, mais aussi, tenez-vous bien, le jus fait par les vers, qui dit-il, c'est le meilleur engrais naturel, le jus de vers. Nous, on ne savait pas trop ce que c'était. Et bien, ce sont ces vers de terre que vous mettez, je pense, dans votre compost. Il y a aussi le jus, il ne faut pas l'oublier. Et Rudy nous explique que le vers l'occupe surtout l'été, parce que l'hiver, qu'est-ce qu'on en fait des vers ? On n'en fait rien. Et pendant l'hiver, il s'est donc mis à cultiver des endives. Et puis, donc, du mi-novembre jusqu'au mois de mars, c'est vrai que pour que l'endive soit bien blanche, nous dit-il, pour qu'elle n'ait pas d'amertume, elle doit rester totalement dans le noir. Et là, c'est l'endroit idéal.
Alors, les vers, l'endive, mais il y a aussi les champignons.
Eh oui, les champignons, des amis du noir aussi. Ils cultivent les fameux rosés des prés, mais aussi la pleurote. L'endroit est parfait, nous dit-il, 15 degrés, 85% d'humidité. Et là, il nous fait quelques confidences. Le champignon de Paris pousse sur du fumier de cheval, la pleurote sur du peuplier broyé, et le fameux shiitake, ce champignon étonnant, sur du chêne broyé. Le shiitake, vous savez qu'il a des vertus magiques, il fait pousser les dents, pousser les cheveux, et empêche de vieillir.
Et si vous voulez encore lire et écouter toutes les rencontres des frères de Paris pour la place du village, c'est sur notre site ici.fr.
Ici.
Podcast Ici Normandie.
On est dans l'ouest de l'Eure, grosso modo entre Bernay au sud et Pont-Audemer au nord. Le Lieuvin, c'est un petit bout de région dans la région. Aujourd'hui, je m'arrête à Saint-Benoît-des-Ombres chez mon copain Steve. Me voilà garé dans le jardin de Steve.
Eh, je crois que le décor est planté là.
Salut Fred.
Ah ouais. C'est magnifique.
Ouais.
Toi, dans ton jardin, t'as pas planté des arbres. Hein.
Bah non, ils étaient déjà là. Hein.
T'as planté d'autres trucs. Hein.
Tu sais, le terrain commence là-bas où t'es arrivé là.
Et dès l'entrée, le décor est planté.
À côté de là, il y a des sculptures.
Alors toi, comme t'aimes bien les musées, bah t'en as fait un chez toi dans ton jardin quoi.
Voilà. Ouais. C'est pas un musée figé ça.
C'est-à-dire ?
Par exemple, aujourd'hui, t'es venu chez moi.
Ouais.
Quand tu vas rentrer.
Ouais.
Tu pourras pas dire, je suis venu visiter le musée de Steve.
Ah bon ?
Ah non. Tu pourras dire, j'ai vu ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce que si tu reviens dans un moment, c'est plus le même musée que tu vas voir.
Dans son jardin, Steve a planté des dizaines de sculptures en bois.
C'est toi qui as fait tout ça, là ?
Ben oui, Fred.
Ben oui, c'est lui.
Ben oui, c'est moi.
Ça fait quoi ? 2 hectares ici, je crois ?
Ouais, 1,5 hectare, ça va jusque là-bas, jusqu'aux chevaux, là-bas. Tu vois les chevaux au bout, ouais. Là-bas ?
C'est des sculptures en bois ?
Bah ouais, tout est en bois, là.
Que tu fais à la tronçonneuse ?
Tronçonneuse, disqueuse, ciseaux à bois...
Tu dégrossis à la tronçonneuse, quoi.
Tu dégrossis à la tronçonneuse.
Il sculpte des bestioles, Steve.
Tu vois, regarde tous ces bestioles par terre, là.
Il y a des crocodiles par terre.
Voilà, moi, j'ai pas de chien, moi. C'est ça, mes chiens. Les gens me disent, t'as pas de chien chez toi ? Bah, regarde les gueules, tu vois, là. C'est eux qui gardent la cour.
Tu fais que des animaux, en fait.
T'as remarqué ça, direct, hein ?
Non, mais quel sens de l'observation ?
T'as toujours vécu de la sculpture ?
Ouais, j'ai toujours suis fils de sculpteur.
Il était en Normandie, ton père ?
Non, Fred. Moi, je suis né à l'île Maurice. J'ai vécu là-bas. Je suis arrivé ici, en France. J'avais 40 ans.
Il y a 25 ans.
Donc, j'ai grandi dans l'atelier de mon père, si tu veux.
Et pourquoi il a quitté l'île Maurice ?
Bah parce que j'ai rencontré ma femme...
Bibi.
Ouais.
Le petit nom qu'il donne à sa femme.
Leila, il s'appelle.
Leila.
Ouais, Leila.
Comme la chanson de...
Clapton.
Eric Clapton. Leila.
Je suppose qu'il y retourne pas souvent à l'île Maurice.
Si, j'y vais, moi, de temps en temps. J'y vais, je t'ai dit, mais c'est pas à côté, l'île Maurice. T'as déjà été ?
Bah non.
Non ?
J'attends que tu m'invites.
Ben, moi, c'est maintenant, c'est ici chez moi, Fred.
Et si on en revenait aux sculptures ?
Comment tu en vis alors ? T'as des commandes, des gens qui te passent commandes sur tes sculptures
et... Oui, j'en ai un peu de commandes. Sinon, comment je vis ? Tu sais, nous, on fait des ateliers. Parce que, tu sais, à mon âge, il est temps de.
De transmettre.
T'as trouvé le mot.
J'ai trouvé le premier.
T'as trouvé le mot avant moi, de transmettre les connaissances, tout ce que j'ai appris. Mon père m'a appris pour que je transmets. C'est ce qu'il m'a dit. Si tu transmets pas, ça sert à rien que tu apprennes.
Totalement d'accord.
Et je trouve ça très bien, moi.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a un plaisir à apprendre et connaître. Et il y a aussi un autre plaisir qui peut être, et peut-être plus grand.
Je pense savoir de quoi il parle.
De transmettre.
Transmettre.
Parce que quand tu vois quelqu'un qui fait ce que tu lui as appris, qui réalise ça devant toi, c'est un plaisir que tu ressens.
On passe le flambeau.
Ouais, c'est notre rôle. Hein.
Transmettre.
On est éphémère ici, nous. On est deux passages, comme on dit.
Steve sculpte les fruits et légumes, le bois, la glace et le sable.
Tout ça, quoi.
Je vous mets les infos et les photos sur l'appli.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Bourgogne.
Là, on est vraiment dans l'ambiance. Hein.
Voilà.
Pour découvrir...
Ça, c'est par là.
Oh ! Bonjour ! Donc là, parmi les bruits que vous entendez, on est vraiment dans l'ambiance du début de vinification dans un domaine viticole en Bourgogne. Alors, Nathan Drouin, on est chez vous et on est un petit peu pas chez vous.
Exactement, ouais. On est chez Vincent Girardin, donc au 5 impasse des Lampennes, à Meursault. Et donc, j'ai la chance de pouvoir vinifier ici dans... cet espace chez du coup mon patron.
Tout a été mis en tonneau déjà.
Oui, tout à fait.
De ce millésime 2025.
Exactement. Pour l'instant, seuls les aligotés sont en fermentation. Et les Saint-Romain et les Haussé-du-Rest, qui ont été récoltés un petit peu après, eh ben, eux ne sont pas encore partis en fermentation.
Ah.
Ils sont en demi-mûs en fait. Mmh. C'est pas la pièce traditionnelle bourguignonne, mais c'est des fûts de 500 litres. Pour pas justement marquer trop le vin et donc avoir vraiment la fraîcheur de l'aligoté sur ce que je recherche.
Le fait d'avoir son petit rond de serviette,
oui,
dans un domaine a priori assez gigantesque, hein, parce que là on est vraiment dans une forêt de tonneaux.
On est bien équipé. Et c'est ça la chance.
C'est ça en fait, voilà, parce que
oui,
le fait de démarrer une activité viticole aujourd'hui.
Exactement.
En Bourgogne, ça vous aurait demandé des millions d'euros, j'imagine.
Oui, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'investissements de ma part aussi. Et donc là, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir les vignes et de me consacrer aux vignes et d'avoir cette partie-là pour vinifier. Donc oui, très chanceux et très reconnaissant aussi.
Parce que d'un point de vue organisation, ça ne doit pas forcément être facile non plus. Je me dis, vous partagez quoi, un calendrier, un tableau Excel sur « Attendez, je viens bosser tel jour pour moi, je viens bosser tel jour pour le domaine ?»
Non, je travaille au domaine et puis le soir, je fais mes petites cuvées ou le matin en arrivant, je m'organise comme ça. Ou entre midi et deux aussi.
Sur vos temps de pause.
Exactement.
Vigneron pour son domaine en dehors de ses horaires de travail, dans un autre domaine viticole, c'est le quotidien de Nathan à Meursault. Ici Bourgogne, la vigne, ça s'écoute.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Picardie.
Ils sont jeunes et ont un avis sur tout. Ici Picardie donne la parole au Tio Picard. Annick Bonhomme.
Un enfant a-t-il le droit de ne pas être d'accord avec ses parents ?
Oui, et d'ailleurs, ils n'acceptent pas ça. On fait des choses qu'on n'a pas le droit et eux, ils le font devant nous. Nous, on doit se coucher tôt et eux, ils doivent se coucher tard.
Moi, je dis, oui, on a le droit de ne pas être d'accord parce que c'est pas tout le temps eux qui décident, parce qu'on a le droit de prendre un petit peu la vie. Par exemple, si nous, on mange un truc qu'on n'aime pas et eux, ils mangent un truc qu'on aime bien,
c'est un peu injuste. Hein.
En fait, quand, par exemple, nos parents, ils sont pas d'accord avec quelque chose, et que, en fait, nous, on a raison. Ils acceptent pas qu'on a raison. C'est les plus grands et ils veulent toujours avoir raison.
Et surtout, parlant de trucs familiales, le plus embêtant avec les parents, c'est que quand t'es l'aîné et que t'as toujours une petite dispute avec ta sœur, ils vont croire aux plus petits. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais alors ça, c'est un truc qui me saoule vachement, en vrai.
C'est totalement vrai. Alors, la dernière fois, mon petit frère, il a mis ma chambre en bazar, alors j'avais tout rangé, mais j'ai pris.
C'est toi qui as été disputée ?
Oui.
Et tu as réussi à expliquer à tes parents ou pas ?
Oui, au bout d'un moment, ils ont réussi à me croire. Donc ça va, c'est mon frère qui a été puni, pas moi, heureusement, mais c'est l'injustice.
Pour moi, on obéit tout le temps à ses parents, même si c'est un truc grave et tout, j'obéis.
Mais quand vous n'êtes pas d'accord avec vos parents, est-ce que vous échangez, est-ce que vous arrivez à discuter ?
Oui, mais en fait, ils font ça pour notre bien, c'est pas parce qu'ils veulent pas.
C'est toujours pour votre bien ?
Non, c'est pas vrai.
Quand, par exemple, je suis pas d'accord avec ma mère, elle me laisse m'expliquer, mais à la fin, elle dit toujours son dernier mot. Du coup, c'est moi qui ai tort et c'est elle qui a raison, alors que c'est moi qui ai raison.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
Y'a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent le pinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du 8e. Le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cap dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus Loggia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable sans triste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du 8e, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, y'a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un qui est instite, y'en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y'a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM, et la montre du 8ème. Le HLM, au 3ème, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse. Celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz. Le mois de juillet au club, comme toutes les décolorées, elle a sa mini couvert. Elle allume tout le quartier quand elle sort son coquère. Au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant parce que ça fait vieillir. Ça ramollit les fesses et puis ça fout des rides. Elle l'a lu dans l'Express, c'est vous dire si elle lit. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM et la montre du 8ème. Le HLM au 4ème. Dans mon HLM, y'a celui des voisins appellent le communiste, même ça lui plaît pas bien. Il dit qu'il est trotskiste, j'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, il y a 3 ans pour le Chili, tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué. C'est pour dire si j'ai raison. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM, la montre du 8ème. Le HLM, il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loubard et un flic qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre de ces braves gens, je fais un saut au 8ème pour construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant. C'est vous dire si on rêve. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM et la montre du 8ème. Le HLM. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM et la montre du 8ème. Le HLM. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM et la montre du 8ème. Le HLM. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM.
Les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Lorraine.
Monsieur le jardinier, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il donne de nombreux conseils sur les réseaux sociaux pour tenter de garder nos plantes en bonne santé et surtout en vie. Elle vient de publier un livre qui va vous intéresser si vous aimez le jardinage. Tout le monde peut jardiner. Bonjour monsieur le jardinier.
Et bonjour.
À quel moment vous avez compris que le jardinage allait devenir un petit peu plus qu'un loisir?
Dès que j'ai goûté mes premières récoltes, la qualité qui était incomparable, et c'était vraiment des produits d'exception, j'ai été piqué.
Vous expliquez avoir commencé avec des échecs, comme tout bon jardinier qui se respecte. Qu'est-ce qui a changé dans votre approche entre vos premières frustrations et la méthode actuelle que vous avez pour jardiner?
Alors, je n'ai pas une méthode en particulier pour jardiner, et c'est pour ça que ce livre il est intéressant, parce qu'il y a plusieurs méthodes, et chacun va pouvoir utiliser les méthodes qui sont adaptées à sa situation, que ce soit un climat qui est différent, un sol qui est capricieux, peu importe, une exposition particulière. En fait, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, donc il n'y a pas une méthode, mais des méthodes à mettre en pratique en fonction de sa situation, quoi.
Vous parlez du jardinage comme d'un art de vivre. Ça veut dire quoi concrètement dans le quotidien?
Le jardinage, c'est vraiment un art de vivre. Pourquoi? Parce qu'on va récolter nos propres produits, on va consommer de saison, on va vivre en harmonie avec la nature. C'est pas juste cultiver des plantes, quoi. C'est un véritable art de vivre. Après, tout le monde peut jardiner, mais c'est vrai que tout le monde n'y parvient pas.
Vous avez grandi en Moselle, dans les jardins ouvriers. Ça vous a donné des sources d'inspiration?
Oui, on a tous en Lorraine une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui cultivait son jardin et qui nous a nourris quand on était petits avec des bons petits plats faits maison, quoi.
Dans ce livre, vous affirmez que la main verte, justement, elle n'existe pas. C'est un mythe un peu qu'on essaye d'entretenir?
Oui, parce qu'en réalité, tout le monde peut jardiner. Du moment où on a les bonnes compétences. C'est pour ça que ce livre a été créé. Je l'ai découpé en deux parties. La première partie, c'est 7 règles qu'on doit respecter pour pouvoir jardiner en harmonie avec la nature. Et la deuxième partie, c'est un calendrier mois par mois que pour pouvoir suivre et savoir quoi faire.
Est-ce qu'on peut vraiment nourrir une famille toute l'année avec un potager, même ici en Moselle?
Si on prend par exemple mon arrière-grand-mère, elle nourrissait 9 enfants avec son potager. Donc nous, justement, on a une histoire culturelle où vraiment, je pense qu'on est les meilleurs jardiniers en France, hein, parce que le climat, il est vraiment pas facile. Plus être sur les légumes du soleil, donc tout ce qui va être tomates, aubergines, melons, ça, on va avoir des difficultés. Mais pour le reste, au contraire, vu qu'on a quand même pas mal d'eau, on va pouvoir se nourrir plus facilement qu'à Marseille, par exemple.
Vous fédérez plus d'un million de personnes sur Instagram, c'est assez énorme. Qu'est-ce que ça change dans votre manière de transmettre?
Je me rends compte surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se mettre au jardinage, qui veulent retrouver une nourriture qui a vraiment du goût. Et en fait, justement, c'est ce million d'abonnés, il m'a permis de savoir un peu les questions que les débutants se posent. Je suis passé par là aussi. Mais toutes les questions, toutes les semaines, j'ai des questions, et j'y ai répondu dans le livre.
Tout le monde peut jardiner, c'est le livre que vient de sortir Monsieur le Jardinier, notre star du potager ici en Moselle. Je vous conseille de vous le procurer, de l'offrir même à ceux qui n'ont pas la main verte. Ça pourra peut-être fonctionner. Merci à vous.
Merci, à vous aussi.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Creuse.
Ici à la Souterraine, en passant devant le tiers-lieu, la maison d'à côté, peut-être que vous vous êtes déjà demandé ce que c'était avant. Eh bien, on a trouvé des personnes pour nous répondre. Annick et
Roger Boulevard.
Je remonte en 1946, où c'était avant un café-restaurant-pâtisserie. Les jeunes filles venaient avec leurs copains et ils mangeaient beaucoup des pâtisseries, notamment des bonnes brioches, qui étaient vraiment délicieuses. Les propriétaires de ce restaurant étaient assez âgés, c'était monsieur et madame Piton. Ils ont revendu leur commerce en 1952. C'est monsieur et madame Poti qui étaient bouchers de profession. Monsieur Poti et sa femme Alice ont repris donc le commerce. Alice tenait la boucherie plus le café qui était resté. Je suis arrivée quand ça a été revendu ici aux personnes qui ont fait la maison d'à côté en 2017.
Hein? L'actuel café, c'était là où il y avait le café avant ?
Non, pas du tout. Alors, l'actuel café d'aujourd'hui était l'ancienne boucherie. Quand les parents ils se sont mis à la retraite, les enfants n'ont pas repris la succession. Donc, c'est pour ça que ça a été revendu en 2017 pour devenir la maison d'à côté.
Ma sœur fréquentait Mademoiselle Pouty, mais le reste, je ne pourrais pas vous en dire plus. Hein.
Ici, par contre, c'est que cette grande pièce où nous sommes, dans la maison d'à côté, c'était le café-restaurant-pâtisserie. En 1946, ça, c'était la grande pièce. Et c'était un lieu de rencontre.
Ça tenait à côté de la boucherie ou dans la boucherie?
Ici, non, dans la grande salle. Parce que là où il y a le café actuellement, c'est la boucherie. C'était l'ancienne boucherie.
Bonjour! Bienvenue à la maison d'à côté. Moi, je me présente, je m'appelle Elsa. Je m'occupe avec mes collègues de ce lieu. On est une coopérative et nous avons l'association Bocale Facelli qui est intégrée. On va proposer plein d'activités, la cuisine, le jardin. On invite les personnes à se retrouver. autour d'un café, d'une boisson chaude ou froide. On a aussi des sirops. Et puis après, on va avoir des loisirs créatifs, l'apprentissage numérique, ce rendez-vous gratuit. Et on fait de la location d'espace, en gros.
Moi, je m'appelle Océane.
Océane, est-ce que c'est toujours un lieu où on vient prendre une pâtisserie avec les copains ?
Bah, on peut dire ça, oui, parce qu'on a le lycée qui est juste à côté. Donc, parfois, les étudiants viennent ici avec leurs amis, leurs copains. Donc, oui, il y a beaucoup de pâtisseries faites maison et elles sont excellentes.
Le goût pour le partage et les pâtisseries, ça perdure dans le temps.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Provence.
Tous les jeudis, vous partagez avec nous un lieu de Provence. Et ce matin, vous allez nous faire découvrir une source.
Eh ben non.
Ah bon?
Non.
Et qu'est-ce que vous m'avez écrit alors?
Ben, c'est faux ce que non, vous... mais sur le coup, je voulais, puis après, je me suis dit non, une source, ça se dit bon, pas.
Vous faites un peu comme vous voulez.
Exactement. Non, ça se dit pas une source. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'île des Bellons dans le château de ma mère.
Oui.
Voilà. Mais je vais quand même vous parler de source à travers.
C'est gentil,
Manon. Oui. Hier, vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'expression patin couffin.
Oui.
Hein, qu'on emploie dans le sens de etc. Et j'ai mentionné l'expression et le con de Manon. Et pour n'offenser personne, j'ai dit ne le prenez pas pour vous les Manon, c'est juste une expression. Et j'ai ajouté on vous aime d'amour. Ok. Problème, c'est qu'à peine ma chronique finie, ma chérie m'a demandé c'est qui cette Manon que tu aimes d'amour? Alors, c'est vrai. Alors je lui ai dit mais personne, c'est une expression. Et elle me dit mais pourquoi tu me dis que tu l'aimes d'amour? J'ai dit mais non, mais t'as pas la ref, c'est Pagnol, c'est Manon des Sources, c'est Hugolin, hein. Vous savez, Manon, je t'aime d'amour. Oui. Vous faites,
Manon, je t'aime d'amour. Je t'aime, Manon.
Voilà, on est d'accord là. Mais désolé, on va quitter la poésie bucolique et romantique de Manon des Sources et les collines pour que je vous explique cette expression, le conte de Manon. Alors pour tout vous dire, on ne sait pas trop d'où elle vient, elle ne semble pas typiquement provençale, en tout cas on la connaît dans le sud-ouest, chez Francis Cabrel, même si elle est très attachée à la Provence, notamment à travers l'œuvre de Pagnol, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, on l'emploie pour exprimer là aussi une suite que l'on n'énumérera pas, comme pour dire etc. Exemple dans un roman de Jean-Paul Delfino, et tout le con de Manon et tout le tremblement. Ou encore chez Maurice Gouirand, il regrettait la prospérité de Marseille, mais aussi le respect de la religion, de la morale, de la discipline, du patin couffin et du con de Manon. Oui, le con de Manon, c'est l'équivalent de patin couffin et tutti quanti. Autre subtilité décrite par Rivo Nora dans son dictionnaire des parlers régionaux, l'expression serait utilisée pour couper court aux exigences de son interlocuteur. Exemple, et le con de Manon, non, pendant que tu es, leur dire, allez, c'est bon, hein, arrête-toi, tu m'as gonflé. Dans la lignée des fâcheux de, fan de chichoulo, fan de pute, ou même, autre expression avec d'autres prénoms, je suis désolé, la putain d'Adèle ou la putain de la Caroline, c'est, on va avoir des problèmes.
Je pense, oui.
Cette interjection est aussi utilisée pour marquer la surprise. En voici un exemple sous la plume de Maurice Gouirand, cette fois dans le théorème de Langambi, le con de Manon, mais c'est mon riri. Et on la trouve aussi chez Gilles Del Papas, sous la variante la con de Manon. Selon Robert Bouvier, dans le Parler Marseillais, l'expression exprime aussi le dépit ou l'irritation, hein, et il donnait cet exemple, le con de Manon, ça a encore foiré. On trouve aussi des variantes avec le con de Madon, et on vous aime aussi d'amour, les Madons. Non, je vais rien dire, parce que je vais avoir des problèmes avec Magaté. Magaté, c'est toi que j'aime d'amour. En tout cas, tous les auteurs s'accordent à dire que Manon est sûrement là juste pour la rime, sans aucun lien avec une quelconque Manon qui aurait existé.
Ben bien sûr.
Et je vous le confirme parce que j'ai vérifié toutes mes sources.
Parfait. Un petit bonjour à votre gâté qui nous écoute ce matin.
Manon des Sources.
Oui, non, mais c'est pardon.
Il a bien Manon des Sources.
Non, j'ai vérifié mes sources maintenant. Je ne sais pas s'il l'a vérifié.
Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais vous me prenez.
On vérifie. Fille, on vérifie.
C'est possible, ça.
C'est comme ça.
Non, mais si vous voulez, je vous laisse.
Mais non, t'as pas d'amour, Eric.
Bon, donc un petit bonjour à votre gâté. Oui. Je le confirme, mais Eric est sage comme une image.
Mais exactement.
Enfin, chérie, je t'aime.
Local, musique et bonne humeur.
Aller à un concert, peindre ma chambre en vert, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer. Pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Aspire. soupir, m'enfermer tout le jour, écrire des mots d'amour, boire mon café noir, me lever en retard, pleurer sur un trottoir, me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs, jouer de la guitare, danser sur un comptoir, remplir un caddie, avoir une petite fille et passer mon permis.
Profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Besançon.
Ici matin, jusqu'à 9h, Loïs Paton, Anne Fauvarc.
Bonjour Arnaud Fromage.
Bonjour, bonjour à tous.
La nécessaire minute contre toi, c'est maintenant. C'est vous que j'ai vu tout à l'heure, hein, le doigt dans le pot à pâte à tartiner. C'est quand même pas très propre, hein, tout ça.
Je sais, mais que voulez-vous, c'est tellement bon et tellement régressif, la pâte à tartiner, du chocolat, des noisettes et plein d'huile. Bon, ça aide pas à rentrer dans du 38, mais flûte à la fin, il faut savoir se faire plaisir. Et surtout, cette merveille a bien failli ne jamais exister.
Alors comment ça, à cause de Monsieur Ferrero, c'est ça?
Non, lui, il y est absolument pour rien, ce serait plutôt à cause de l'homme de Néandertal. Je vous explique. L'année dernière, des scientifiques de l'université d'Aarhus au Danemark se sont mis en tête de reconstituer le paysage et d'identifier les essences de plantes qui poussaient en Europe il y a 100 000 ans avant l'arrivée de l'homme. Pour cela, ils ont collecté des pollens anciens, les ont analysés et les résultats ne sont finalement pas si surprenants que ça. On y retrouve du tilleul, du hêtre, du charme et donc bien sûr des noisetiers. Beaucoup de noisetiers même, l'arbuste prolifère en effet dans les plaines, hors des forêts. Or, il faut s'imaginer qu'à cette époque, l'Europe était remplie de hordes de bisons, de rhinocéros, d'éléphants de 4 mètres de haut qui pouvaient peser jusqu'à 13 tonnes, autant dire des débroussailleuses, des animaux géants qui, en empêchant la forêt de tout grignoter, assuraient ainsi indirectement un espace pour les noisetiers. Bon, les années passent, et il y a 45 000 ans, l'homme quitte son berceau africain pour gagner l'Europe. Les premiers humains s'habituent à leur nouvel environnement, ils commencent à chasser les grosses bestioles. Aucun risque pour ces espèces, les humains sont bien trop peu nombreux pour représenter le moindre risque. Mais il n'empêche que ça commence à modifier légèrement l'équilibre en place. Moins de grands animaux, moins de défrichage, donc plus de forêts et moins de noisetiers. Si bien que, nous dit encore l'étude, ils sont passés pas loin de l'extinction.
Alors qu'est-ce qui a sauvé les noisetiers justement, Arnaud ?
Eh bien, ces mêmes humains. En effet, alors que les noisetiers étaient sur le point de disparaître, nos ancêtres ont commencé à développer ce qu'on appellera plus tard l'agriculture. Or, le bois de noisetier, c'est très pratique si l'on veut se fabriquer des outils, des armes, réaliser un peu d'artisanat ou tout simplement manger des noisettes. Les premiers hommes ont donc commencé à les cultiver, sauvant ainsi les noisetiers de la disparition. Alors, aujourd'hui, on n'a plus d'éléphants sauvages de 4 mètres de haut en Europe, mais heureusement, il nous reste les noisettes. La pâte à tartiner peut donc exister. Et ma journée peut commencer.
Ouf, je suis rassuré aussi parce que le petit déjeuner n'aurait pas la même saveur. Sinon, merci beaucoup Arnaud Fromage et heureusement également qu'on n'a plus d'éléphants. Eh bien, à demain, je crois.
À demain.
Bah oui, c'est ça, demain pour la nécessaire minute comtoise en réécoute, évidemment, sur l'application Ici et sur ici.fr.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. un podcast ICI Gironde.
Alors bonjour, je m'appelle Fabrice Pesanti, j'ai 56 ans, je vis dans le Médoc depuis mon enfance, je suis né dans le Médoc, d'un père italien, d'une maman médocaine. Alors là il est 22h30, dans 10 secondes on va monter sur la scène, on est anxieux, on y va. Vive le Saint-Sébastien.
Ça se passe un peu comme ça, les soirs de spectacle dans ce cabaret du Médoc à Couquec, petit village de 270 habitants. Le Saint-Sébastien reprend tout simplement le nom des grands-parents de Fabrice qui étaient propriétaires des lieux dans les années 80. Cet établissement fête cette année ses 30 ans et il fait travailler une équipe de 15 personnes.
Et bien voilà mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue au Saint-Sébastien.
Fabrice est un enfant du pays. C'est sur cette terre qu'il a commencé à se passionner pour les costumes et le théâtre.
Tout jeune, j'avais quel âge ? J'avais 10 ans. Je m'amusais à coudre des choses, à faire des costumes, à faire des choses comme ça. Et avec mes sœurs, on arrivait à faire des pièces de théâtre. On se déguisait, on faisait des personnages déjà. Et en fait, j'ai commencé très très jeune à me déguiser et à faire des costumes.
Et quand vous est venue l'idée de créer ce cabaret ?
Un jour, eh bien, on s'est dit pourquoi pas se faire un petit spectacle. J'ai commencé par Régine à l'époque. Et en fait, ça a fait boule de neige.
Vous remplissez la salle tous les soirs ?
Actuellement, oui.
Et donc du coup, c'est quoi la recette du succès ?
Il faut aimer les gens et puis surtout avoir un spectacle de qualité.
Alors mes chers amis, je vais vous présenter donc un artiste, Britney Spears. Mes chers amis, je vous demande de l'applaudir comme il se doit. Voici Monsieur Brice.
Baby, can't you see?
C'est en fait les artistes qui sont là, qui s'approprient les personnages en fonction de leur morphologie, en fonction de leur état d'esprit, parce qu'en fait c'est une passion qu'ils ont envers l'artiste et qu'ils interprètent. Alors moi, depuis de nombreuses années, j'interprète Dalida. Mais au niveau du maquillage, déjà, il va falloir travailler les yeux, parce qu'elle avait un regard un petit peu dans la tristesse, on sentait qu'il y avait de la mélancolie dans ses yeux. Et on met la perruque, on met la robe, et là on rentre directement dans le personnage, jusqu'à ce que on se voit dans la glace. En fait, on est face à la glace, et puis dans l'œil, on arrive à distinguer la femme que l'on va interpréter. Dès qu'on entend les « ah » et ou les « oh », ben là, on est super content, quoi. Ça y est, ça match, quoi.
Alors, ce cabaret, elle a bénéficié d'une sacrée visite. Le roi du cabaret, justement, c'est Michou.
Pour nous, c'était une grande fierté de l'avoir ici à Couquec, dans notre cabaret.
Quand il est arrivé ici, vous a dit quelque chose dont vous avez encore le souvenir.
Il a dit mais c'est plus beau qu'aux Folies Bergères, il a dit.
Fabrice est en couple avec Stéphane Berthier. Ils sont à la tête de ce cabaret qui est une vraie réussite. Il peut recevoir jusqu'à 120 spectateurs, soit à peu près la moitié de la population de Couquec. Le Saint-Sébastien est notamment ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches soirs.
Ici.
Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, nous ne sommes que des hommes, forgés par nos erreurs, que seul amour console. Bonjour, pardon et mille merci à l'heure, pour toutes les fois où elle m'a couverte d'or. Cette marque de rouge à lèvres, il y a ces moments donnés que le temps nous enlève. On n'en aura jamais assez, on en manquera toujours. On n'a jamais trop donné, ni trop reçu d'amour. Bonjour, pardon, et oui, je t'aime encore. De tous les sentiments, ce dernier est le plus fort. Tu te fardes, tu cries de mille paillettes.
comme ceux d'un monde la garde face aux démons dans sa tête. Et si parfois toi aussi tu as peur de ne pas assez briller de l'intérieur.